C'est parti.
Merci. C'était d'autant plus un piège que je ne savais pas qu'il y avait cette conférence la veille jusqu'à il y a 2 ou 3 jours. Ce qui fait que je ne l'avais pas conçu en fonction de ça. Il y aura probablement quelques redites, mais probablement pas trop. Bon, de toute façon, j'ai fait un choix. C'est très difficile de parler d'une énorme boutique comme le CEA, qui a touché à tous les domaines, sans que ça devienne une litanie. Donc j'ai trouvé que ce serait probablement plus amusant, d'autant plus que parmi vous, certains ne doivent pas être des experts de la question, j'ai trouvé plus amusant de partir des toutes origines. D'où est-ce que ça sort ? Ça va, le son est bien, là ? C'est OK, d'accord. Alors, tout d'abord, au départ, il faut se rendre compte qu'à la fin du 19e siècle, on ne savait pas grand-chose. Et j'ai plongé un peu pour retrouver les dates, mais bien sûr, on connaît tous Marie Curie et son mari avec la découverte de la radioactivité naturelle. Mais un Français, Villard, découvre les électrons. C'est Thomson qui découvre les électrons en 1897, le proton en 1913. Donc on se trouve avec une vision au début du XXe siècle qui était très, 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 très limitée sur la connaissance de l'atome et du noyau. Qu'est-ce qui se passe ? Alors là, est-ce que je vais y arriver ? Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est que tout commence à peu près en 1910 avec Rutherford, qui était un savant anglais tout à fait remarquable, qui aurait pu probablement gagner une demi-douzaine de prix Nobel si on avait voulu récompenser toutes ses inventions ou toutes ses interprétations. Et il fait une manip qu'on voit ici, qui est une manip qui est un peu particulière. Il voulait pas découvrir quelque chose. Le radium avait été découvert, le radium émettait des rayonnements, en particulier des rayonnements alpha, et puis il met une feuille d'or, puis il veut faire une manip assez fréquente chez les métallurgistes, qui est de faire des études où on étudie la diffraction, la diffusion dans la matière. Donc une feuille d'or très mince, donc il y a un certain nombre de réflexions, entre guillemets, mais il y a une chose qui le surprend beaucoup, c'est qu'une assez grande quantité de ces particules alpha traverse l'or. Or, l'or, quand vous le regardez, il est complètement opaque. Donc, il en déduit, il se passe quelque chose. Et il a une intuition, et son intuition, ça a été de dire, ben, finalement, il devait y avoir beaucoup de vide dans la matière. Et à partir du moment où il avait beaucoup de vide dans la matière, il est arrivé avec cette notion qui était extrêmement nouvelle pour l'époque, qui était de dire, vous savez, aujourd'hui, quand on vous parle d'un atome, vous savez que dedans, il y a des neutrons qui sont des particules neutres qui ont une certaine masse, il y a des protons qui ont la même masse mais qui ont une charge électrique positive, puis vous avez des électrons qui sont tout petits, 2000 fois plus légers et qui gravitent autour. Ça, à l'époque, on ne le savait pas. Et donc l'intuition qu'il a, c'est de dire la matière, elle est faite de noyaux. Et dans le noyau, on va trouver ce qu'on connaissait à l'époque, qui était des charges positives. Et puis, on va trouver, il va dire, autour, il doit y avoir un nuage d'électrons qui est dans une espèce de sphère autour. Donc, c'est l'invention de cette idée que l'atome est sécable. L'atome, c'est pas quelque chose qui est une boule qu'on peut pas casser en deux. C'est sécable, on peut le diviser en deux. Donc ça, c'est une grande invention. Et puis, après ça, ce qui est amusant, c'est que quelques années après, là, je suis vraiment coupé là, c'est pas grave. Quelques années après, ben, vous avez l'auteur H.G. Wells, hein, que tout le monde connaît. Eh ben, il écrit un livre qui s'appelle, alors j'aime bien, le livre en anglais s'appelle The World Set Free, c'est-à-dire le monde libéré, et la traduction française, c'est la destruction libératrice, ce qui est quand même assez intéressant comme traduction. Et en fait, H.G. Wells était très intéressé par le fait qu'on allait découvrir une grande énergie qui allait être formidable pour la civilisation et qui en même temps allait être très dangereuse pour la civilisation. C'est ce qu'on trouve dans tous ses bouquins. Et en fait, ce livre, il l'a écrit 2 ou 3 ans après, en ayant appris ce qu'avait découvert Rutherford. C'était donc quelque chose qui était vraiment dans son thème. Il faut le savoir que de la même manière, un autre savant qui s'appelle Szilard, qui était un Hongrois, en 1932, il lit le livre de H.G. Wells, et dans les mois qui suivent, il invente la notion de fission, qui était quand même assez intéressant. Je ne sais pas s'il le sortait du bouquin de Wells, mais c'était comme ça. Donc, on en est là. À partir de là, on passe à l'étape suivante, qui va être un autre savant anglais, Chadwick, un gars assez remarquable, qui lui, en 1920, il va à Cambridge, et il y avait des grandes conférences qui étaient prononcées dans la Royal Society, et là, il entend Rutherford parler d'une idée qu'il caressait depuis, ça faisait déjà 10 ans qu'il avait découvert la constitution de l'atome, mais Rutherford dit quand même, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part quelque chose qui est un proton qui est associé directement à un électron? Donc ce n'était pas l'idée qu'il allait avoir un neutron, c'était une bête bizarre mais qui était intuitive. Et Chadwick se lance dans des expériences avec d'ailleurs un paquet d'autres gens, et les premiers ce sont les deux Allemands Both et Becker, qui eux font une manip qui est intéressante, parce que, pour revenir un peu au départ, ce qui est fabuleux avec ce qui se passait à l'époque, où on découvrait des rayonnements, c'est qu'il ne faut pas oublier que la qualité d'un rayonnement, c'est un outil extraordinaire pour les regarder l'ultra-petit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un électron, un proton, un neutron, ce sont des outils chirurgicaux extrêmement fins qui permettent d'aller être regardés partout. Alors là, l'équipe de Beth et Becker, qu'est-ce qu'ils font? Ils bombardent des matières légères, lithium, beryllium, bore et autres, et il constate qu'il en sort quelque chose. Mais ils ne savent pas l'interpréter. Il constate que ça a un poids voisin de celui des protons, il constate que ça n'a pas de charge électrique, mais ils ne savent pas qu'en faire. Ils n'arrivent pas à déduire quelque chose. Derrière ça, vous avez Irène et Frédéric Joliot-Curie qui font la même manip, mais qui ne comprennent rien non plus. Ils ont peut-être loupé leur premier prix Nobel ensemble à ce moment-là, mais ils le loupent. Donc ils ratent ça. Et puis enfin, il y a Chadwick qui, lui, fait une manip que je montre ici, hein, dans laquelle il a une source de polonium. Où est-ce qu'il est, ce truc-là? Il est là. Il a une source de polonium dans laquelle il va attaquer des matériaux très très divers. Et à partir de là, il regarde ce qui se passe avec chambre d'ionisation, etc. Donc toute une manip un petit peu compliquée. Et puis, il finit par dire, ben voilà, c'est une particule neutre qui a la même masse que le proton. Et là, on voit qu'on a franchi une étape énorme, puisque maintenant, on sait définir ce que c'est qu'un atome avec ses protons, ses neutrons, ses électrons. Donc, c'est un pas en avant. Il a d'ailleurs le prix Nobel pour ça en 34 ou 35. Hein. Donc, on en est là. Donc, Chadwick a découvert le neutron. Alors, à partir de là, je continue à dérouler l'affaire. On va arriver, là, maintenant, à l'étape suivante qui va être d'essayer de voir ce qu'on va faire de ce neutron. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a toute une quantité de savants, les uns après les autres, qui vont se frotter à ça. Ça va durer des années, hein, c'est pas évident. Alors, vous avez d'abord Szilard, je l'avais dit tout à l'heure, qui avait lu H.G. Wells, et qui aimait l'idée d'une réaction en chaîne, en disant, mais c'est bien, si j'ai quelque chose que j'envoie sur un atome, je vais peut-être le casser en deux. Donc, il imagine qu'il pourrait y avoir de la fission. Et là, il fait un tas d'essais. Malheureusement, il n'a pas de chance, parce qu'il fait des essais avec des corps qui étaient légers. Hein. Il fait ça avec principalement beryllium, indium, etc. Et donc, ça ne marche pas. Pas de chance, il n'a pas l'idée de le faire avec de l'uranium. Donc, ça ne marche pas. Ensuite, en 1934, en Italie, Enrico Fermi, alors l'histoire est encore plus délicieuse parce qu'il fait la même manip, mais là, lui, il va jusqu'à l'uranium. Il bombarde l'uranium avec des neutrons et il découvre qu'il sort quelque chose. Il en sort deux même. Alors, il y en a un qui va appeler l'osénium et l'autre qui va appeler l'espérium. Il invente les noms. Osénium, espérium. Et l'idée qu'il a en tête, c'est que j'ai un noyau dans lequel j'ai des neutrons, des protons, j'envoie un neutron dessus, je suis en train de fabriquer ce qu'on appelle un transuranien dans les jours modernes. J'ajoute quelque chose à l'ensemble. Et donc, il publie tout ça, ça fait un grand, grand bazar dans la communauté scientifique, et pour ça, il va avoir, en 1938, un prix Nobel. Simplement, il s'était planté. Il n'avait pas fait des transuraniens. il a eu un prix Nobel pour une erreur. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe après ça ? On passe à la troisième étape. Toujours des gens qui reproduisent encore 3-4 ans après la même manip. Là, ce coup-là, ce sont deux Allemands, hein, Otto Hahn et Fritz Strassmann, et ils font toute une manip, et ils tombent sur un résultat qui est bizarre, parce qu'ils arrivent à dire, oh, tiens zut, mais ce que je trouve, c'est quelque chose qui ressemble à du barium. Bon, ils ne comprennent rien. Et alors là, je vais vous lire un texte qui est assez extraordinaire, parce qu'en 3 jours, il se passe quelque chose qui est, je dirais, un peu historique, mais qui est assez marrant. Il écrit à une de ses consoeurs, qui s'appelle Lise Meitner, qui était une très très bonne chimiste, qui avait le doigté pour aller analyser les fifrelins, et il lui écrit, écoutez bien, « Il y a quelque chose de si rare dans nos isotopes du radium, donc lui, il ne pensait pas à l'uranium, que nous n'en informons que vous. » Donc, il lui écrit, « Nous sommes enclins à tirer une terrible conclusion. Nos isotopes du radium se comportent comme du barium. » Vous pourrez peut-être en tirer une fantastique explication, textuellement. Hein. Nous savons, Strassmann et moi, qu'il n'existe aucune voie possible de formation du barium par décroissance. Donc je ne comprends rien. Serait-ce un isotope très lourd de cet élément, le barium ? Il envoie ça le 19 décembre à Meitner, qu'il reçoit le 20, ça ne devait pas être très loin, qui le lit, qui en discute avec son neveu Otto Fritz, qui était lui-même un très bon physicien. Puis il mouline pendant une journée, et à la fin, le lendemain, le 21, elle répond à Otto Hahn, et elle répond, je vous lis, « Il ne faut pas écarter l'idée de rupture d'une grande partie du noyau d'uranium. » C'est la première fois que c'est dit. « Nous avons eu de telles surprises en physique nucléaire qu'on ne peut pas dire de façon inconditionnelle que ce n'est pas possible. » Vous voyez un peu le doute qu'il y avait dans la tête de ces ingénieurs et physiciens. En fait, il venait de démontrer que ce qu'a fait Fermi en 1934, ce n'était pas des transuraniens, mais c'était une fission. Et alors ce un peu salopard d'Otto Hahn, qui avait déjà écrit l'article, en vitesse le modifie en rajoutant un paragraphe avec l'interprétation de Lise Meitner, l'envoie à Nature, c'est publié début janvier, et c'est publié sans le nom de Meitner, et c'est lui qui en prend la gloire. Et lui et Strassmann auront le prix Nobel en 1944, mais elle ne l'aura pas, ce qui était une injustice flagrante. Donc c'était elle qui avait su faire la bonne interprétation. Donc c'est amusant de voir comment ça se passe. Vous savez, ça me rappelle ce que me disait il y a 7-8 ans un astrophysicien de Saclay, qui partait à la retraite, qui était un gars brillant, qui avait tout fait. Il m'avait dit, j'ai une vie merveilleuse, on s'est toujours trompé. Et ça, il parlait d'astrophysique. Et ça montre bien qu'ils étaient dans le même mode. Alors derrière ça, ce qu'on a découvert, donc, c'est le schéma que tout le monde connaît, j'ai un atome d'uranium que je bombarde avec des neutrons, qui est cassé en deux. Les deux morceaux peuvent être donc éventuellement de toute nature. Ça donne N neutrons, et après ça, j'ai les réactions en chaîne, et on en arrive à ce résultat. La phase d'après, ça va être vraiment ce que j'appellerais la naissance de l'énergie nucléaire, au sens propre, puisque derrière ça arrivent Joliot-Curie et son équipe, avec en particulier Hans Alban, un Autrichien, et Kovarsky. Je rappelle qu'on était en 38, Hitler était déjà là, et il y avait eu déjà une fuite assez massive de tous les savants qui étaient en Hongrie, en Autriche et partout, qui avaient rejoint la France, qui avaient rejoint l'Angleterre, etc. Donc on en était là. Et là, ils lisent Nature, comme tout le monde, ils voient l'interprétation de Lise Meitner, et là, on retombe sur l'idée qui avait été proposée par le Hongrois Szilard, qui était de dire... Peut-être qu'on pourrait faire avec des fissions. Si on fait plus de neutrons qu'on en a injectés, on peut avoir une réaction en chaîne. Et on revient à une réaction en chaîne. Et donc, c'est à ce moment-là que Joliot-Curie part et fait une manip. Alors, une manip qui est assez simple. Je la montre parce que je ne vais pas vous montrer beaucoup de physique, mais montrer qu'on était sur des choses assez élémentaires. Alors, il y avait de l'analyse derrière, hein, ce n'était pas évident. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il prend une source de neutrons, qui était probablement une source de polonium, beryllium, je ne sais pas trop. Et puis, il fait des petits calculs avec Kovarsky et avec Alban, et les calculs, il dit, si je casse un noyau d'uranium en deux, je vais me trouver avec une certaine masse qui va avoir une certaine inertie, ça devrait pouvoir parcourir à peu près 2,5 mm dans l'atmosphère. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend un tube, qui est ici. Ce tube, il le tartine d'uranium. Je ne sais pas comment il a fait, mais il le tartine d'uranium. Il met ça. Et puis, il met un deuxième tube avec un petit jeu entre les deux. Et puis, il bombarde. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que les produits de fission qui sont émis partent par là. Ils viennent se déposer sur cette surface. Il récupère le tube. Il fait tout le touillage de chimie qu'il faut. Il fait également des mesures radiologiques. Et ben, il découvre effectivement que cette fission donne un tas de produits qui sont des produits de fission, avec par exemple, là, c'était un des cas par exemple qu'il a mesuré, où il voyait apparaître du barium et du krypton qui sortaient suite à ce bombardement. Bon, il fait d'autres manips, hein, par exemple là c'est une chambre à brouillard, où on fait des traces dans des vapeurs d'alcool, et la trace est d'autant plus grosse que la particule est lourde, donc ça lui permettait de très très bien repérer ce qu'étaient les produits de fission, par le fait qu'ils avaient une masse assez importante, en gros la moitié ou le tiers de celle de l'uranium. Donc on en est là. Et alors à partir de là, il continue à maniper, et assez vite, il voit qu'il y a quand même pas mal de neutrons qui sont émis, il commence à faire des calculs, ils finissent d'ailleurs par calculer un chiffre qui n'était pas idiot, ils calculent en moyenne 3 neutrons par fission, en fait c'est 2 et des poussières, mais 3 neutrons par fission, donc ils calculent bien. Ils font quelque chose qui est très intéressant aussi, ils bénéficient d'une mesure qui avait été faite antérieurement, qui montrait que quand on ralentissait les neutrons, ils devenaient encore plus efficaces pour casser l'uranium, mais ça avait été fait sans penser à ça. Et il finit avec Francis Perrin qui fait venir, il finit par faire un tas de calculs, et là, il va se passer quelque chose qui va être assez, assez important, c'est qu'il va, très rapidement, je vous rappelle, là on est en février 38, eh bien très très rapidement, il va déposer un certain nombre de brevets. Et les brevets, ils arrivent très très vite, puisque en mai 39, c'est-à-dire pratiquement le premier brevet, c'est il couvre le principe des réacteurs nucléaires, y compris, on parle déjà de réacteurs à des neutrons rapides ou de réacteurs à des neutrons lents. Il propose les moyens de stabiliser la fission pour ne pas avoir quelque chose d'explosif avec des barres de contrôle absorbants. Il décrit le principe du bombe atomique, hein, je reviens à l'exposé d'hier, hein, au moins dans son principe. Et puis encore, un peu plus tard, un an après, il va élargir son travail, parce que ayant constaté cet intérêt d'avoir des neutrons de basse énergie, d'avoir des quantités d'uranium mobilisées pas trop importantes, il travaille au moyen d'enrichir l'uranium au-delà de 0,7%, et là il analyse toute une série de moyens physiques qu'on verra apparaître plus tard chez les Américains. Et puis en dernier, ça c'est le rôle très important de Perrin, qui est établir les principes de calcul d'un cœur très hétérogène. Donc en un an, extraordinaire, hein, il balaye tout ça, et là, ce qui est très particulier, autant jusque-là ça avait été de la physique, c'était un boulot de physicien, d'un seul coup, ça devient presque du boulot d'ingénieur, on commence à avoir quelqu'un qui se préoccupe de propriétés industrielles en particulier, tout de suite. Donc on en est là. Mais je vous rappelle que là, on est en pleine drôle de guerre. Alors derrière ça, ben, on voit apparaître ce que j'appellerais un schéma de ce que peut être un réacteur, qui est, vous avez des barreaux d'uranium. Alors là, on rentre dans un système où on le met dans de l'eau lourde. L'eau lourde va ralentir les neutrons. Alors, vous savez, c'est la pétanque, hein. Vous avez un neutron, vous l'envoyez dans l'eau lourde, vous avez du deutérium, deux fois la masse, ça le ralentit très bien. Hein. C'est une boule de pétanque petite qui arrive sur une boule de pétanque qui est beaucoup plus grosse, en schématisant. Donc on arrive à faire quelque chose qui est pas mal. Donc il en est là, et puis on le refroidit, etc. Donc on est parti sur ce schéma-là. Alors à partir de là, il va se poser très très vite, parce qu'il faut voir la vitesse de réaction de Joliot-Curie. Tout de suite, il s'intéresse à l'uranium en disant, si on veut faire une vraie manip, C'est pas avec nos petits bidouillages que vous avez vus, les tubes. Il faut qu'on arrive à faire une masse critique, il faut qu'on arrive à faire un réacteur. Et pour ça, il me faut quoi ? Ben, il me faut de l'uranium. Et là, Perrin avait fait des calculs lui permettant d'estimer la quantité d'uranium qu'il lui fallait. Donc, il y avait une seule mine qui donnait de l'uranium à l'époque, était la mine du Katanga. Donc, ils vont à Bruxelles et immédiatement, c'est très vite, 23 mai, le 8 mai, il venait de poser ses brevets, hein, le 23 mai, ils ont acheté 5 tonnes d'uranium à Bruxelles et les ont ramenés en France. Et ça, on est juste avant la fin de la drôle de guerre. Ensuite, il faut voir que derrière ça, le patron du Katanga, là, l'union minière du Katanga, qui n'était pas idiot, qui se dit « Oula, mais c'est intéressant », qu'est-ce qu'il fait ? Il met 1200 tonnes d'uranium sur un bateau et il l'envoie aux États-Unis. Et une fois aux États-Unis, il négocie avec les Américains qui lui achètent la totalité. Vous voyez comme ça démarrait vite. Tout ça avait circulé très très vite. Dans le même temps, les Allemands, dès qu'ils auront envahi la Belgique, vont aller de la même manière récupérer ce qui restait, c'est-à-dire un millier de tonnes. Donc vous voyez, c'était bien vu, mais c'était seulement 5 tonnes par rapport à 2000 ou 2500. Donc on en est là. Ensuite, c'est pas tout ça, mais il faut avoir de l'eau lourde, parce que dans sa tête, c'était le moyen d'aller le plus vite, ça permettait en même temps de refroidir, de ralentir et tout ça. Et là intervient quelqu'un qui va être très important beaucoup plus tard, qui est Raoul Dautry, qui était un gars remarquable, qui s'était fait connaître en particulier en 1914, parce qu'à l'époque il travaillait pour les chemins de fer, et il avait été capable, à la demande du haut commandement français, de réaliser dans un temps absolument record une ligne de chemin de fer de 100 km qui permettait d'alimenter le front, Verdun et autres. Donc c'était un gars à Poigne qui était devenu directeur administrateur des... Et il se trouve en 1939, bombardé ministre de l'armement. Il faut voir qu'ensuite, il a été dans le gouvernement de De Gaulle. Alors c'était un type très remarquable. Alors Joliot lui fait savoir qu'il a besoin de Lourdes. Et là, il avait auprès de lui un jeune homme qui s'appelait Allier, qui était très très bien, que vous avez ici, qui était un banquier. C'était un banquier, il n'avait rien à faire là-dedans, mais il avait été, dans le cadre de la drôle de guerre, il avait été rattaché au ministère auprès de Dautry. Et donc il envoie Allier en Norvège chercher de l'eau lourde. Et là, on arrive à une histoire qui est assez extraordinaire, puisque vous avez ici la lettre qui a été écrite, mais que je peux vous lire pour ceux qui... C'était l'ordre qui était donné à Allier. Monsieur Jacques Allier est habilité par Monsieur le Président du Conseil, le chef du gouvernement, à traiter avec les détenteurs de la matière faisant l'objet de la mission pour assurer au gouvernement français la disposition des quantités les plus importantes possibles. Il est habilité à procéder à un achat ferme immédiat, à donner aux détenteurs de la manière la garantie du gouvernement. Il est expressément déchargé du soin d'assurer la matière qu'il acheminera ou fera acheminer au risque et péril du gouvernement français. Toute autorité diplomatique, consulaire, militaire sont toutes tenues de prêter en toutes circonstances à M. Jacques Allier le concours nécessaire. Donc, vous voyez, le gars partait avec cette lettre en Norvège. Alors pourquoi en Norvège ? Parce que la Norvège est un pays très riche en électricité. Ils sont encore aujourd'hui 100% de l'électricité qui est hydraulique. Or, on avait besoin d'énormes quantités d'électricité pour faire de l'eau lourde. Donc Allier se trouve en Norvège, va voir le directeur de l'usine, qui venait de refuser aux Allemands de leur en vendre. Il devait avoir un parti pris, heureusement, dans le bon sens, et qui accepte de vendre aux Français. Et c'est ainsi que Allier peut acquérir de l'eau lourde. Alors je ne sais plus combien c'était pas énorme, 135 litres, 180 litres, 135 litres, je ne sais plus. Quelque chose comme ça, c'est pas grave. Alors, où l'affaire devient corsée, c'est que dans le même temps, la Norvège fourmillait d'espions allemands, qui savaient parfaitement ce qu'ils venaient chercher. Donc ils amènent le Lourdes à l'aéroport, ils le mettent dans un avion, et puis mine de rien, ils le sortent par la porte de l'autre côté de l'avion, le mettent dans un autre avion qui était garé à côté, l'autre avion part vers un aéroport quelque part en Écosse, et pendant ce temps-là, l'avion qui allait en direction d'Amsterdam a été détourné par la Luftwaffe et amené en Allemagne, mais sans eau lourde. Donc vous voyez, c'était une vraie histoire. Et ça montrait à quel point, d'ailleurs, déjà beaucoup de pays s'étaient passionnés pour cette affaire-là. Donc on en est là. Alors, à partir de là, on va rentrer dans ce que j'appellerais... là, on était dans la période glorieuse française. Alors, pas seulement française, européenne. Vous voyez, dans toute cette affaire, c'est l'Europe qui menait le bal. Et même si les États-Unis commençaient avec des gens comme Fermi et Szilard, qui étaient déjà partis là-bas, c'était l'Europe qui menait le bal. Puis arrive la guerre, arrive la drôle de guerre, la fin de la drôle de guerre, et là, on va se trouver avec la nécessité de faire quelque chose. Alors... le stock de Lourdes, dès le déclenchement des hostilités, il est décidé d'amener l'eau lourde en direction de Bordeaux, avec toute la retraite, et il est décidé de mettre l'eau lourde à l'abri dans un bateau qui est envoyé vers l'Angleterre, et ce qu'on voit apparaître, c'est qu'on voit apparaître qu'il y a une lettre qui est ici, hein, qui est une lettre qui a été signée par qui indique que Alban et Kowarski. Alors, faut voir qu'Alban et Kowarski avaient été mis, comme c'était des étrangers, en 40, ils avaient été mis en résidence surveillée. L'un était à Porquerolles, l'autre était à Belle-Île. Alors, on va les chercher en vitesse, on les ramène à Paris, on leur donne les bidons de Lourdes, on leur demande d'aller en Angleterre, et là, on leur demande d'embarquer sur un bateau. Qui est commandé par le comte de Suffolk et Berkshire, ça faisait très chic. Tout ça est amené d'abord dans une prison, puis ensuite au château de Windsor, où c'est confié au libraire du château de Windsor, et tout ça après ça part à Cambridge, qui va permettre aux équipes françaises, et en particulier Alban et Kowarski, qui ont été envoyés là-bas, de continuer à faire des manips concernant la fission. Donc tout ça part... Ensuite, au-delà de l'eau lourde, en ce qui concerne l'uranium, de la même manière, les 5 tonnes d'uranium, il n'était pas question de les laisser aux Allemands, il fallait les mettre à l'abri. Donc là aussi, on les envoie à Bordeaux. À Bordeaux, ça devait embarquer aussi sur un navire anglais, malheureusement juste avant un bombardement. Vous l'avez peut-être déjà dit hier, ça, non ? Non, ça ne faisait pas partie. Donc, bombardement du port... Pas question de mettre, le bateau anglais ne vient pas. Donc décision est prise par je ne sais pas qui, de le mettre dans un bateau qui part au Maroc. C'est confié à un jeune homme brillant, un certain Bondon, qui accompagne l'uranium au Maroc, réussit à dégoter une mine de phosphate, amène l'uranium dans la mine, le met au fond d'une galerie de mine, et va bricoler les plans de la mine pour qu'on ne le retrouve pas. Et notre uranium est donc resté jusqu'en 1946, au fond d'un trou, au Maroc, sans personne n'y touche. Donc vous voyez, tout ça, il y avait tout un espèce de réseau de savants qui était quand même extrêmement près du terrain et qui était capable d'agir de manière très efficace. Donc on en est là. Alors, pendant ce temps-là, on va avoir... tout un développement qui va commencer à se préparer, ça va être le programme Manhattan. Alors je pense que là, vous en avez parlé beaucoup, donc je vais en dire quand même deux mots, mais seulement deux mots. C'est ce qui a été le déclencheur, c'est toujours Szilard, celui qui avait imaginé la fission, hein, toujours ce Hongrois, qui va avoir Einstein et qui lui dit quand même, il y a quelque chose qui est important, on ne sait pas bien ce que vont faire les Allemands là-dessus, quand même Otto Hahn, Lise Meitner, c'était des Allemands, ils étaient toujours en Allemagne, qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas bien, il faudrait peut-être quand même qu'on regarde ce qui se passe. Donc ils vont voir Einstein, Einstein qui était une gloire de l'époque, en parle à Roosevelt, et à partir de là, démarre le début de la réflexion sur le programme Manhattan et qui a amené en particulier au démarrage de la première pile. Là, c'est une image d'artiste hein, avec toute l'équipe en devant. Et puis vous avez ici le dessus de la pile de Fermi, la pile de Chicago. Pourquoi pile ? Parce qu'on empilait des blocs de graphite et des blocs d'uranium pour faire un ensemble jusqu'à ce qu'on atteigne la masse critique. Donc, ça, c'est... Alors, le programme Manhattan, quand même, je vais en dire deux, trois mots, ça a été énorme, parce que, vous voyez, on était parti de petites manips un peu bidouillées, hein, si je me permets, hein, même si c'était très pensé et beaucoup de mesures derrière, mais tout d'un coup, on passe à une autre échelle, puisqu'il y a des dizaines et des dizaines de sites qui vont être consacrés, pour la plupart complètement secrets. Toute une organisation, je montre un peu le genre d'organigramme qu'il pouvait y avoir derrière ça, et on voit apparaître des installations absolument monstrueuses. Là, c'était les réacteurs plutonigènes. Alors, vous voyez déjà, on était au-dessus de la taille de la pile de Fermi, et c'était seulement 2 ans après. Déjà une installation industrielle destinée à faire du plutonium en masse. Puis ensuite un deuxième réacteur à Hanford encore 1 an après, qu'on voit ici, donc d'énormes installations. De la même manière, là je vous donne l'exemple de la diffusion gazeuse, parce que pour faire les bombes, il y avait la bombe plutonium, la bombe uranium, et là pour donner un exemple pour l'enrichissement de l'uranium jusqu'à 80%, à un certain moment, je ne sais pas si ça a été toujours vrai, mais c'était en cascade, on commençait par faire la diffusion thermique, puis la diffusion gazeuse avec des membranes. Ou à la fin, oui. Et ça, c'était pour arriver à 90%, où ils finissaient sur les calutrons. Donc, mais juste pour donner un ordre de grandeur, ça fait 2 km de long. Donc, ce sont des installations absolument considérables. Ça, c'est un engin, là, ils ont consacré presque 15 000 tonnes d'argent pour les calutrons. Ils ont littéralement pillé le trésor américain de tout son argent. Donc, on ne se rend pas compte à quel point le programme Manhattan a été un programme absolument monstrueux. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce qui a coûté le plus cher, ça n'a pas été de faire les bombes, ça a été toute la partie plutonium et uranium qui a bouffé 90% du budget. Donc, c'était quelque chose d'assez considérable. Alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passait ailleurs dans le monde ? Les Anglais... bien sûr, avaient récupéré un certain nombre de savants. Ils avaient des gens au niveau Cambridge qui avaient toutes les compétences qu'il fallait pour ça. Bon, malgré tout, c'était l'effort de guerre. Et je crois que ce qui s'est passé, c'est que les Anglais se sont vite aperçus qu'ils pouvaient pas suivre. Ils créent en 1941 un comité qui s'appelait le comité Maud. Hein, qui a commencé à s'intéresser à tout ce qui se passait dans le domaine, en passant bien sûr aux armements. Il faut bien voir que le programme Manhattan, il était quasiment 100% armement. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Et puis, qu'est-ce qu'ils découvrent, les Anglais ? Ils découvrent que là où ils avaient dépensé, où les Américains avaient dépensé déjà de l'ordre de 15 milliards de dollars d'aujourd'hui, ce qui était énorme pour l'époque, ben, eux, ils avaient dépensé 5000 fois moins. Donc ils ont découvert qu'ils n'étaient franchement pas au même niveau. Et puis ils avaient leur effort de guerre, ils avaient toutes les difficultés. Donc les Anglais ont pratiquement renoncé à travailler réellement sur le nucléaire pendant la guerre. Mais en revanche, ils se sont mis d'accord avec les Américains pour mettre à la disposition des Américains leurs savants. Et donc vous avez toute une tripotée de physiciens et ingénieurs de haut niveau anglais qui sont partis... contribuer au programme Manhattan, qui ont été très impliqués jusqu'en 1944. Puis à partir de 1944, pour tout ce qui était enrichissement et plutonium, les Américains ont commencé à les mettre de côté pour qu'ils apprennent pas trop. Ce qui d'ailleurs a créé le fait que plus tard, il y a eu une très forte dépendance des Anglais au programme américain. Il y a une chose qui n'est pas souvent dite, c'est que dans l'accord, qui était l'accord du Québec, hein, de 1943, il y avait une clause qui était intéressante, c'est que les Américains s'engageaient à ne pas utiliser de bombes sans l'accord des Anglais. Et on ne le dit pas très souvent, mais Churchill a donné son accord pour les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, parce que c'était inclus dans l'accord du Québec. Donc vous voyez, derrière tout ça, il y a énormément de politique, on est en face d'un système qui est très complexe. Alors ce qui fait que, in fine, les Anglais n'ont fait un réacteur qui s'appelait le GIB, GE2EP, ils n'ont fait qu'en 1945, hein, au moment où ils étaient déjà un peu soulagés, ils avaient récupéré une partie de leurs savants. Du côté du Canada, bien là aussi, il y a quand même, ils étaient alliés au programme Manhattan aussi. Ils ont des savants français, des ingénieurs français qui les ont rejoints. Et donc, ils ont, eux, de leur côté, construit une pile qui a démarré en 1945. Donc là aussi, longtemps après, vous voyez, les Américains étaient déjà en pleine industrialisation. Ils sont partis là-dessus. Et au niveau du Canada, eux aussi, avec pas mal d'électricité, avec l'hydraulique, eux ont opté pour le choix de l'eau lourde. Et ça a d'ailleurs marqué beaucoup leur industrie future, puisque leurs réacteurs électrogènes ont tous été ensuite à eau lourde et le sont encore. Donc tout ça bougeait, mais avec quand même une différence d'échelle absolument stupéfiante entre les Américains et les autres. Les autres, c'était vraiment du bricolage. Alors, arrive la fin de la guerre, et là, on va voir arriver le retour en France d'un certain nombre de gens. Alors là, qu'est-ce qu'on se voit? C'est que, comment est-ce que la France avait, et comment est-ce que De Gaulle avait été tenu au courant? Ben, ce qui se passe, c'est que suite au débarquement, un peu après le débarquement, De Gaulle, pour une raison que j'ignore, part en Amérique du Nord, va au Canada, va à Ottawa, et à Ottawa, il y avait trois Français très impliqués dans cet ensemble, qui étaient Jules Guéron, Auger et Goldschmidt, Jules Guéron qui sera le premier directeur du CEA Saclay, Pierre Auger qui était un très bon physicien, puis Goldschmidt qui a été plus tard directeur des relations internationales du CEA pendant très longtemps. Hein. Oui. Donc on avait ces trois personnes qui étaient là. Quand ils savent que De Gaulle vient, ils se font inviter au consulat d'Ottawa, et ils réussissent à sortir De Gaulle du pince-fesse dans lequel il était, pour l'amener dans une petite salle où Jules Guéron le rencontre, et bien que Guéron et autres Augers s'étaient engagés à tenir le secret vis-à-vis du programme Manhattan, ben eux vont dire à De Gaulle, attention, voilà ce qui se passe, il va y avoir des bombes atomiques, les Américains avancent très vite, il faut le savoir. Et De Gaulle, apparemment, l'a bien, parce que un d'entre eux raconte qu'en sortant plus tard, au moment où il se quittait, il aurait dit à, je crois que c'était à Auger, il aurait dit, monsieur le professeur, j'ai très bien compris de quoi il s'agit. Donc, il avait avalé. Donc, on peut dire qu'en 1943, De Gaulle a été mis au courant de l'existence du programme Manhattan. Alors, à partir de là, quand même, c'est devenu un peu compliqué, parce que, là, un peu de politique, Joliot-Curie était au Parti communiste. C'était un résistant. Il avait même été patron d'une équipe de résistants communistes. Et donc, les Américains ne peuvent pas dire que ça leur plaisait beaucoup. Et on a... alors, malgré ça, il était le seul à être présent localement. C'est-à-dire qu'il avait cet avantage par rapport aux autres qui étaient encore au Canada, encore aux États-Unis, de pouvoir commencer à agir dès qu'il a vu arriver le gouvernement de De Gaulle, la libération de Paris, etc. Donc il commence à agir. Et il se débrouille pour voir De Gaulle. De Gaulle discute avec lui. Et De Gaulle, dans les discussions, Joliot-Curie lui raconte ce qu'il veut faire, ce qu'il doit faire, et De Gaulle, lui, trouve intéressant ce que lui dit Joliot-Curie, et va vis-à-vis de son secrétariat, il va s'exprimer en disant qu'il a une grande confiance en Joliot-Curie, c'est-à-dire que De Gaulle va défendre Joliot-Curie face aux Anglais et aux Américains, qui veulent le mettre hors piste, voire veulent le mettre en résidence surveillée pour éviter qu'il ne donne quoi que ce soit aux Russes. Donc, il y a eu une période politique assez difficile à ce moment-là. Au moment où les Américains arrivent en Normandie, les Américains avaient mis en place une organisation qui était une mission qui s'appelait ALTOS, qui était une... Alsos, oui, c'est ça, tout à fait, oui, Alsos, qui avait pour mission de voir ce qui se passait en Europe, et en particulier ce que faisaient les Allemands en la matière. Alors, ils y mettaient une telle urgence que dès le débarquement, alors qu'ils n'étaient pas encore arrivés à Paris, ils vont dans la maison de campagne en Bretagne de Joliot-Curie, qui n'était pas là. Ils suivent les troupes, ils arrivent à Paris, ils vont dans sa villa de banlieue, Joliot-Curie n'était pas là. Ils finissent par le retrouver au Collège de France. Et là, ils ont toute une discussion avec lui, et dans cette discussion, finalement, le fond de leur pensée, c'était où est le risque? Et ce que Joliot leur aurait dit, de manière très claire, à mon avis, il n'y a que deux pays au monde qui sont capables aujourd'hui d'avancer à la matière, ce sont vous, les Américains, et les Russes. Donc on mettait, d'après Joliot-Curie, Joliot-Curie a dit, non, les Allemands, c'est pas un problème, il faut voir que la guerre n'était pas finie. Hein. Donc là, il en est là. Donc, au-delà de ça, à partir de là, il y a d'abord un blocus américain. Alors, il faut savoir que, par exemple, quand Alban veut revenir du Canada, il revient par l'Angleterre, il demande à prendre un bateau pour la France, hop, on le bloque. On lui bloque son passeport, pas question de quitter l'Angleterre. Chamaillerie entre le grand patron américain du programme nucléaire et l'ambassadeur qui est américain à Londres. Finalement, Dieu merci, la communication entre les deux ne marche pas bien et Alban réussit à revenir en France. Ça fait un scandale pas possible, ça monte au niveau de Roosevelt, c'est un peu la catastrophe. Mais de la même manière, après ça, sur tous les autres, ceux qui revenaient du Canada et autres, il y a eu un gros coup de frein des Américains et des Anglais. Et c'est à cette occasion, d'ailleurs, que Churchill et Roosevelt voulaient faire mettre en résidence surveillée Joliot Curie. Donc, choses sont un peu compliquées. Alors, derrière ça, De Gaulle donc, a été alerté par Joliot Curie. De Gaulle a exprimé sa confiance en Joliot Curie. Juste, il y a une petite anecdote qui est pas très connue. De Gaulle appréciait tellement Joliot Curie qu'en 1958, quand il est mort, il y avait eu un avis un peu général du gouvernement, pas question de faire des funérailles extraordinaires, et De Gaulle a dit non, ce sera une funéraille nationale. Et donc Joliot Curie, bien que communiste, a eu droit à des funérailles nationales en France. Ça montrait un peu le lien qu'il y avait entre les deux personnages. Alors, derrière ça, il faut commencer. Joliot Curie commence à s'intéresser à tout ça. Et puis, De Gaulle s'appuie beaucoup sur Daughtry, qui était donc maintenant au sein du gouvernement provisoire chargé de la reconstruction. Et il demande à Daughtry de commencer à préparer la création d'un organisme chargé des recherches nucléaires. Alors, ça discute pendant un an. Et puis en octobre 1945, donc on était tout à fait proche de la fin de la guerre, De Gaulle envoie un petit mot, donc vous avez ici la copie manuscrite, dans lequel il demande de procéder d'urgence à l'examen d'un projet d'ordonnance concernant le Commission de l'énergie atomique, dont le fonctionnement doit être délibéré le jeudi 18. Vous voyez, donc ça va très très vite. La demande de Gaulle, je ne sais plus quelle est sa date, mais ce n'est pas grave. Donc, il fait ça.
Très vite, parce qu'il y avait des élections législatives qui arrivaient.
Oui. Il y avait peut-être ça aussi en plus, oui. Il voulait faire le passer avant. Donc, il fait une ordonnance. Alors, l'ordonnance est assez intéressante parce qu'elle montre bien ce qu'il y avait dans l'état d'esprit de De Gaulle. C'est que l'ordonnance, elle établissait des principes qui étaient extrêmement simples. Et qui n'était pas du tout habituel pour l'époque, un établissement à caractère scientifique, technique et industriel, et on verra, ça a été vrai du côté des armes nucléaires, et ça l'est encore, ça a été vrai aussi du côté CEA civil jusqu'à la création d'Areva et de la COGEMA, donc établissement technique et industriel, doté d'une personnalité civile, très important pour les juristes, autonomie administrative et financière. C'était une révolution par rapport à ce qu'on demandait aux universitaires ou aux CNRS. Donc, autorité. Alors, derrière ça, il y avait une idée qui était importante, c'était d'avoir une dualité de commandement, avec d'une part un haut commissaire qui était un grand scientifique, qui était chargé de piloter la recherche, et puis un administrateur général qui, lui, était chargé de l'administration. Et ça, vous pouvez imaginer que pendant 2-3 ans, ça a été l'objet de débats permanents pour savoir qui avait la main sur l'autre, etc. C'était pas évident du tout, parce que d'un côté, vous aviez Joliot Curie qui voulait les pouvoirs, et d'autre côté, vous avez Daughtry qui était un homme d'une très haute stature, et qui disait, non, c'est moi qui vais commander. Donc, pas très facile du tout. Donc, De Gaulle avait une idée qui était très très claire, il disait, il faut que les scientifiques soient déchargés des rôles administratifs, pour qu'ils fassent vraiment de la recherche, parce qu'il trouvait que Joliot Curie n'en faisait plus assez. Il faisait trop de politique. Et puis d'autre part, administrateur général, pourquoi ? Parce que c'est l'État qui donne l'argent, donc l'État veut pouvoir contrôler. Donc il y avait un peu cette double idée. Donc l'ordonnance est rédigée, elle est équilibrée, elle donne une indépendance tout à fait exceptionnelle. Et puis, à ce moment-là, les textes sont publiés très vite, le 30 janvier, Joliot Curie nommé au commissaire, Daughtry administrateur général, et au départ, il y a un comité avec Augère, Perrin, enfin tous les gens qu'on a connus par ailleurs, qui est mis en place, et on peut dire qu'au départ, c'est quand même ce haut comité, l'administrateur général, qui va mener les affaires. En 46, ils sont 236. Ils seront 1600 en 1950, il y a 4 ans après. Le budget monte de 500 millions à 4 milliards. Donc, vous voyez, une croissance très très rapide. C'est vraiment le début du CEA. Alors, au-delà de ça, le côté militaire, que fait la France ? Parce que là, je vous ai parlé d'énergie nucléaire, je ne vous ai pas parlé ni d'électricité, ni d'armes. Et là, on voit que le poker menteur commence, si on peut dire, hein, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais Parodi, qui était ambassadeur de France au Conseil de sécurité, va faire un exposé le 29 mars 1946, donc c'était tout de suite après la création du CEA. Un trait essentiel marque ses études, c'est qu'ils sont entièrement orientés vers la paix, vers les œuvres de paix, etc. Je suis autorisé à dire que les buts du gouvernement français sont purement pacifiques. Nos voeux est que toutes les nations du monde fassent de même. Donc vous voyez, une déclaration très forte, nous, la bombe, jamais. Bon, on sait tous aujourd'hui que, déjà à l'époque, cette idée était largement derrière leur tête, même si au départ, tout était inclus dans le CEA, organisme unique. Ce n'est que plus tard que se sont séparées la partie application militaire du reste du CEA. Donc derrière ça, il faut se mettre au boulot. Alors, se mettre au boulot, l'idée initiale est très ambitieuse. Chercher un terrain pour faire un grand centre de recherche dans lequel on fera beaucoup de choses. Alors, très très vite, on dit que Joliot-Curie avait l'habitude de se promener avec sa femme et son chien. Donc ils prenaient le RERB actuellement, ils s'arrêtaient à Gif ou je ne sais pas où, et ils allaient marcher avec le chien sur le plateau de Saclay, et les mauvaises langues disent, un, c'est un plateau désertique, deux, il est humide et pourri, trois, il y a toujours du vent, personne n'aurait envie d'y vivre. Donc c'est un excellent endroit pour mettre un centre de recherche nucléaire. Donc vous voyez, c'était un peu l'esprit de ce qui était dit. Et derrière ça, il y a une ambition assez forte de réaliser très très vite un réacteur qui ait un certain niveau de puissance pour réussir très très vite à faire réellement, par exemple, du plutonium. Alors quand on parle de plutonium, on voit bien qu'il y avait quand même quelques idées derrière la tête. Donc pour ça, il fallait commencer à travailler, à avoir pas mal de... Alors ils avaient, oui, j'ai oublié, c'est transparent, ce qui était très caractéristique de cette époque, c'est qu'ils avaient une vue très très clair de ce qui devait être fait. Hein. Alors là-dedans, on ne parle pas du militaire, mais vous voyez que les objets qui devaient être étudiés à Saclay étaient extrêmement divers, parce qu'il y avait de la physique, de la biologie, de la physico-chimie, de la médecine, de la biologie animale, biologie végétale. Donc, ils avaient une idée très très claire de cette puissance de l'outil qui représente les rayonnements pour étudier à peu près toutes les matières et toutes les choses. Donc, très 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 jolie vue de tout ça. Alors, il travaille à ça, puis en 47, il s'aperçoit que ça ne va pas très vite. Bon, déjà, il faut acheter le terrain. Il y a des oppositions locales. Les fermiers locaux ne veulent pas voir arriver ça à Saclay. Donc, ça ne se passe pas très bien. Il n'y avait pas encore tout à fait assez d'argent pour faire tout ce qu'il voulait faire. Donc, il y a une décision un peu pragmatique, il y a de dire non, il faut qu'on commence plus vite. On va démarrer modeste et on prépare bien la phase suivante. Et c'est là qu'est décidé de trouver un endroit plus accessible, plus facile à trouver, et c'est là qu'on tombe sur le fort de Fontenay-aux-Roses. Le fort de Fontenay-aux-Roses avait une seule gloire, c'est qu'en 1870, il avait été occupé par le Crown Prince Prusse, et c'était de là qu'il bombardait Paris. C'est la seule fois qu'il a servi ce fort. Et c'était dans ce sens-là ce qui n'était pas très brillant. Deuxième caractéristique du fort de Fontenay-aux-Roses, c'est là qu'on amenait les condamnés à mort pour les fusiller. En particulier, le patron de la milice a été fusillé là. C'était ce fort. Alors ce fort, donc, c'était, on le voit bien ici, avec des tas de merlons couverts de terre. À l'époque, il y avait 18 mètres de différence de hauteur entre le haut et le bas du fort. Maintenant, c'est plat comme une galette. Vous voyez comme ça a bougé. Donc c'était comme ça. Mais au moins, c'était des locaux disponibles dans lesquels on pouvait se mettre avec son entrée qui était ici. Donc c'est l'idée. Il faut s'installer comme ça. Pour vous donner un exemple, ici, vous avez un petit laboratoire de chimie qui s'était implanté dans une des casemates du fort. Donc, il faisait froid, c'était humide, c'était inconfortable, tout ça, mais tout le monde était là-dedans. Dans le même temps, ils vont travailler, ils retournent en Norvège pour acheter de l'uranium. Parce que la décision qui avait été prise ici, c'était plutôt que de faire le gros réacteur tout de suite, c'était de faire un réacteur beaucoup plus léger. C'était Bertrand Goldschmidt, retour des États-Unis, du Canada, qui vous dit, ben voilà, on va commencer par faire quelque chose qui va être très modeste, pas besoin de refroidissement, un réacteur presque puissance zéro. Ça nous permettra déjà de nous faire la main et dans l'instrumentation et tout ça. Donc c'est son idée. Kovarsky, qui était plein d'imagination, invente deux noms possibles. On a retenu le deuxième, heureusement. C'est le zéro oxyde d'uranium au Lourdes. Et puis la décision qui est prise, c'est de faire un réacteur au Lourdes parce que l'industrie française est morte. On ne sait pas faire du graphite très pur. Donc on peut mettre du graphite comme réflecteur autour, mais pas en mettre dedans comme la pile de Fermi. On ne sait pas le faire. Le Lourdes, on peut en acheter en Norvège. Et puis, on a les 5 tonnes d'uranium qu'on a récupérées dans les mines de phosphate du Maroc, auxquelles on rajoute, au miracle, un wagon avec 3 tonnes d'uranium que les Allemands avaient oublié au Havre. Donc, on se retrouve avec 8 tonnes d'uranium, ce qui était suffisant. Donc, on va acquérir tout ça. En même temps, dans chacun de ces casemates, ils font le laboratoire de métallurgie, le laboratoire de chimie, mesures nucléaires. Il faut tout fabriquer soi-même. Alors, derrière ça, on va réaliser Zoé. Et là, Zoé, ça vaut le coup de raconter parce qu'on ne se rend pas compte quel était l'état de la France à l'époque. Quand on a voulu faire Zoé, on a arasé une des buttes du fort, à la pelle, à la brouette, hein, il n'y avait pas de machine. On va dans une mine du Nord où on récupère un pont roulant qui datait d'Hérode, qu'on démonte pièce à pièce, qu'on amène quasiment en charrette à Fontenay, et on le remonte pièce à pièce. On monte un hangar que vous voyez qui est extrêmement léger. Là-dedans de ça, pour usiner des pièces, ils récupèrent des camions GMC américains sur lesquels il y avait des tours, des fraiseuses et des scies. Et c'est là-dessus qu'on a usiné des choses. Donc c'était vraiment beaucoup de récup. Il faut faire la cuve à Lourdes, cuve à Lourdes en aluminium, cuve qui était assez grosse, hein, 2 mètres de diamètre, 2 mètres 53 mètres de haut. On ne trouve pas un seul industriel pour le faire en France. Ils sont allés trouver un garagiste dont la spécialité était de réparer des moteurs de Bugatti Royal que les jeunes et brillants propriétaires avaient explosé en conduisant trop vite, parce que c'était des monoblocs d'aluminium. Donc le gars savait souder ça. Ils prennent de l'aluminium qui servait à faire les pots de lait. Et avec cet aluminium, le garagiste fabrique une cuve. Elle est étanche, mais elle a vraiment sale gueule. Ça, la soudure a mauvais partout. Donc panique, on en fait une deuxième. Et ben, la première a fonctionné jusqu'à la fin de sa vie en 79. Elle a toujours été étanche. Et la deuxième est toujours dans le hall de Fontenay, posée sur le dessus de la salle de contrôle, en attendant une utilisation future. Mais donc ça a été fait comme ça. Donc c'était un bricolage. Dans le même temps, on créait au Bouchet, près d'Évry, une usine, c'était une poudrerie, et dans cette poudrerie, on commence à s'attaquer à la fabrication d'uranium, et avec Péchinet, on va essayer de faire un graphite assez puissant. Si je vous dis ça, parce qu'il faut se rendre compte de ce qu'était l'état de la France en 1946. Ça avait été, toute l'industrie avait été soit bombardée, soit cassée, soit pillée par les Allemands. Donc il ne restait pas grand-chose. Et là-dessus, donc, boulot remarquable de Kovarsky, qui avait l'expérience canadienne. Kovarsky a fait une note au pape. Malheureusement, je l'ai perdue, j'en avais une copie. En 3 pages, il avait calculé complètement la cuve. Il avait défini le diamètre, la quantité d'uranium, la quantité de Lourdes. Et la quantité de Lourdes, il fallait donc définir le niveau de Lourdes à partir de lequel ça devenait critique. Ben, je peux vous dire qu'il ne s'était quasiment pas trompé. Ils avaient eu un seul ennui, c'est qu'il fallait absolument qu'ils tiennent compte du fait que c'était pas de l'uranium métal. Ah, ça va, merci. Que c'était pas de l'uranium métal parce qu'on savait pas faire l'uranium métal très pur. Il a fallu faire de l'oxyde d'uranium qui avait été fait au Boucher. L'oxyde d'uranium arrive, mais il n'était pas assez dense. Donc il a fallu qu'ils montent en vitesse un petit laboratoire où ils sont allés recuire cet uranium en atmosphère hydrogène, qui n'était pas évident à faire. Et ils finissent par faire des pastilles qui ont la bonne caractéristique. Et puis à partir de là, il faut calculer. Mais l'oxyde d'uranium a des propriétés de capture qui ne sont pas celles de l'uranium. Et donc il y avait un problème. Et c'est là que tout le monde commence à intuiter. Et ils finissent à inventer une constante qu'ils vont appeler la constante de Saint-Hubert, parce que c'était le jour de la Saint-Hubert, qui a servi à calculer le cœur. Donc ça, c'était Kowarski qui avait fait un travail tout à fait remarquable. Grâce à ça, il se trouve donc avec ce qu'il faut pour fabriquer un réacteur que vous voyez ici. Vous avez ici, là-haut, les barres de contrôle qui vont glisser. Vous avez ici les barres d'uranium dans la cuve de Lourdes du garagiste, les empilements de graphite, et puis vous voyez que c'est équipé d'un tas de sorties pour pouvoir faire des expériences après avec les rayonnements. Pour vous donner l'idée de comment ça fonctionnait, quand ils ont fait leur divergence, bon, ils étaient dans la salle de contrôle, je vous verrai tout à l'heure les courbes, quand ils étaient dans la salle de contrôle, ben, ils ont envoyé un des ingénieurs qui était là, sur le toit du réacteur, il tenait une grosse barre très très absorbante, et puis il était là, il attendait qu'on lui donne l'ordre de la laisser tomber si ça se passait mal. Donc, le système de sécurité, c'était un homme qui allait lâcher la barre pour arrêter. Non, mais textuellement, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, on avait ça, et puis vous avez ici la vue de dessus, hein, avec les sorties de neutrons. Donc ça, c'est le bloc qui a été construit. Et vous avez ici l'image de Zoé, l'image initiale, hein, telle qu'il était à l'époque. Ça vient des archives du Collège de France. Et puis vous avez ici le tout premier tableau de contrôle avec ses galvanomètres et tous les moyens de mesure neutroniques qui avaient été faits dans leur propre laboratoire. Alors derrière ça, on était 14e. On n'était pas les premiers. On était les premiers avant la guerre, on était devenus 14e. C'est-à-dire qu'il y avait 10 réacteurs qui avaient déjà été construits par les Américains en quelques années jusqu'en 1946. Puis ensuite, il y avait eu, pardon, ensuite il y avait eu les... Alors il y a quand même les Russes qui ont eu un réacteur qui a démarré en 1945. Puis ensuite, il y a eu Harwell. Il y a aussi les Canadiens qui sont partis en 1945. Hein. Harwell, c'est 1947-1948. Puis ensuite, nous en 1948. Voilà où on était. Mais vous voyez qu'il y avait déjà uranium enrichi, eau lourde, neutrons rapides. On voit déjà toutes les configurations qu'on verra arriver plus tard. Ça, c'est le carnet de bord qui était tenu par Joliot-Curie lui-même, qui indique toutes les étapes du système, avec les, on voyait apparaître les niveaux d'eau lourde, en particulier ici, on voit quand ça a divergé pour 1749 mm de lourde, c'était la hauteur de lourde, et je crois qu'il y avait 1 ou 2 cm d'écart par rapport au calcul de la constante de Hubert. Donc c'était très très bien. Là vous avez le descriptif, où il commence à monter les barres. Alors, on commence à avoir des rayonnements, mais ça n'a pas l'air de... Ce qui montre la divergence, c'est quand la courbe s'inverse comme ça. Il ne se passe rien, donc ils redescendent les barres, ils rajoutent de l'eau lourde, ils redescendent des barres, ils rajoutent de l'eau lourde, et là, ils arrivent à la divergence. Donc ça, c'est l'image historique, avec bien sûr derrière ça, toutes les images qui ont été partout dans la presse, quand il y a eu la visite du président du Conseil. Vous avez Kowarski, qui était un gars assez rigolo, en train de présenter son schéma, à sa manière. Vous avez Kowarski, là encore, qui avait volé sa poupée à sa petite fille. Il avait appelé la poupée Zoé, et il l'avait menée avec lui pour la montrer. Vous les avez ici tous en train de casser la croûte en discutant du démarrage et avec toute la bande. Et puis, bien sûr, dans la presse, la gloire du démarrage de Zoé. Alors, après ça, bien sûr, il y a eu une montée en puissance dès l'année suivante, ce qui fait que dès 1949, un an après, ils ont pu sortir des barreaux combustibles qui avaient été suffisamment irradiés pour pouvoir l'envoyer au Bouchet, où ils ont fait de l'extraction. Ils ont sorti une dizaine de milligrammes de plutonium, qui était le premier plutonium fabriqué en France en 1949. Donc là, je dirais que on a fini ce que j'appelle la période héroïque, et on va rentrer dans la période suivante. Et la période suivante, c'était bien sûr Saclay. Donc là, ils avaient réussi à acheter le terrain, ils avaient réussi à faire tout ce qu'il fallait. Et à Saclay, alors là, la vision est grandiose. On veut des accélérateurs, on veut un banc de graphes, on veut mettre tous les départements avec la chimie, la physique, la biologie, etc. On veut mettre bien sûr des réacteurs, et en particulier un second réacteur plus puissant. Et dans le même temps, on a envoyé M. Savornin, qui est prospecté dans toute la France, Limousin et ailleurs, pour chercher de l'uranium. Parce que maintenant, il fallait commencer à avoir un peu plus d'uranium que ça, et continuer à acheter de l'eau lourde aux Norvégiens. Donc, tout ça se monte petit à petit, et c'est là qu'on va passer ce que j'appellerais la phase suivante, c'est que après des tas de disputes avec des cabinets d'architectes internes, externes, etc., on finit par faire appel au pape de l'époque, qui était Auguste Perret, c'était l'homme du béton armé. Sa gloire au début du XXe siècle, ça avait été le grand développement du béton armé. Et donc on lui confie la réflexion. Et cette réflexion, elle est inspirée un petit peu par les campus de Berkeley, un peu en même temps par l'idée des phalanstères, hein, vous savez, qui traînaient au XIXe siècle, hein, qui étaient censés être très sociaux. Donc il décide de construire un système qui va être assez spectaculaire. Puisque vous voyez ici un des tout premiers plans qui ressemble tout à fait au centre de Saclay tel qu'il est aujourd'hui. Alors l'idée, vous voyez, d'abord des espaces, le bâtiment administratif, et puis là un bâtiment très intéressant qui est le bâtiment en H. Alors derrière ça, qu'est-ce qu'il y a derrière ce bâtiment en H? Ça montre bien la pensée du comité scientifique. C'est que ici au milieu, vous avez une salle de conférence et une bibliothèque. Et puis autour, vous avez la métallurgie, la physique, la chimie, je ne sais plus quoi d'autre. Ce qui fait qu'on mettait toutes les spécialités, entre guillemets, autour de la salle de conférence et autour de la bibliothèque pour qu'ils travaillent ensemble. On avait déjà, à l'époque, cette idée de polytechnicité. Donc c'était intéressant. Après ça, en termes d'aménagement, la zone des accélérateurs, on y met des ateliers mécaniques ou autres, et on prévoit la place des futurs réacteurs. Et puis ici, le château d'eau et l'entrée du centre. Donc vous voyez une structure très, très bien définie qui montre bien la pensée scientifique qu'il y avait derrière. Alors là, je vous montre que ça a été fait à peu près comme ça. Vous avez à nouveau le schéma ici. Et vous voyez apparaître, là c'était en 58, hein, ben vous voyez apparaître le bâtiment administratif, je suis un peu à l'envers. Vous voyez apparaître le bâtiment en H. Vous voyez apparaître l'ensemble au milieu des bibliothèques et salles de conférence, les bâtiments d'accélérateurs et la série des réacteurs avec EL2 et EL3 qui sont derrière. Puis derrière ça, il y a la métallurgie, etc. Donc vous voyez, le schéma est lancé comme ça et se construit très vite. On plante en même temps 5000 ou 6000 arbres, parce qu'à l'époque c'était une terre blée, ce qui fait que c'est un très beau site maintenant. On dit beaucoup que c'est Irène Joliot-Curie qui a beaucoup insisté là-dessus, mais je ne sais pas si c'est vrai. Le coup de patte de Perret est intéressant, parce que vous voyez ici un des monuments emblématiques, qui est le château d'eau, qui a une gueule absolument superbe, que j'étais amené à faire restaurer il y a une quinzaine d'années, et qui est très typique de Perret, dans le sens que, pour lui, les armatures d'un bâtiment doivent être visibles. Il les met à l'extérieur. Et ça, c'est une idée qui va beaucoup exploiter dans Saclay, parce que ça permet de libérer l'espace intérieur. Donc ça, c'est l'idée. Et ça, on le voit très bien dans les bâtiments tels que vous voyez ici, qui sont des bâtiments qui ont plutôt bien vieilli. Donc vous voyez toutes ces structures extérieures. Et puis à l'intérieur, très peu de poteaux pour pouvoir libérer des espaces modulables déjà. Vous voyez, on avait déjà cette idée d'espace modulable. Il était très en avance pour son époque. Les fenêtres étaient déjà double fenêtres pour réduire les consommations. Donc c'était assez intéressant. Donc ça fait un site qui a vraiment une allure. Le premier patron sera donc Jules Guéron, qu'on voit ici, hein, qui est venu prendre en charge le centre. Un côté social, pas oublier que Joliot-Curie était communiste et qu'il y avait beaucoup de communistes dans la bande, donc côté social très développé. Vous voyez, un grand restaurant qui avait déjà bonne allure. Et puis, en même temps, on commence à construire des logements pour les travailleurs, parce que c'était quand même perdu au milieu de nulle part. Et Saclay a été célèbre après pour les 50 ou 60 autocars qui, tous les matins, amenaient le personnel au travail. Et donc là, vous voyez un petit texte amusant. C'était dans le conseil municipal. Le conseil municipal donne avis favorable pour l'autorisation de construction d'un groupe d'habitation pour le personnel de l'énergie atomique. Il ne pourrait d'ailleurs formuler d'autres avis, attendu que le groupe en question est entièrement construit et prêt à être occupé. Vous voyez, ça donne une idée de la manière dont les choses étaient embarquées. Alors derrière ça, on va construire une première réacteur à eau lourde, on appelait encore pile à l'époque. Vous voyez que ça ressemble quand même pas mal à Zoé, avec le cœur du réacteur, des empilements de graphite qui sont maintenant de meilleure qualité. beaucoup de moyens de travail et puis de gros moyens au sommet pour extraire le combustible, pour l'envoyer, pour faire du plutonium. Parce que là, clairement, l'idée était de faire du plutonium. Et donc, ça, c'est le... Donc, la France a démarré sur des réacteurs lourds, mais elle s'est aperçue que c'était quand même un peu compliqué. Et c'est la raison pour laquelle, après, dès qu'on a su faire du graphite de très bonne qualité, dès qu'on a su faire de l'uranium pur, on a basculé vers des réacteurs graphite-gaz, en particulier G1, G2, G3 à Marcoule, qui ont été les grands réacteurs plutonigènes du programme nucléaire français. Puis ensuite, les réacteurs graphite-gaz électrogène d'EDF. Bon, qui avait quand même un inconvénient, hein, ce qui explique la suite. Le gros inconvénient de ces réacteurs graphite-gaz, c'est comme l'uranium est naturel, ça oblige à avoir des cœurs énormes. Vous rajoutez ça des épaisseurs considérables de graphite qui sont assez transparents en neutrons, on arrive à des monstres absolus. Or, dans le même temps, il y avait un amiral qui s'appelait Rick Hoover aux États-Unis qui, en 1953, avait commencé à construire des petits réacteurs pressurisés, essentiellement au départ pour les mettre dans des sous-marins. Et en 1953, démarrait déjà le premier réacteur pressurisé faisant de l'électricité, qui était celui de Shippingport. Alors qu'il y avait une taille, en volume, ça doit être 30 ou 40 fois plus petit qu'un réacteur graphite-gaz. Et en plus des machines qui, quand on regarde les circuits proprement dits, sont d'une simplicité assez biblique par rapport au réacteur graphite-gaz. Donc on était là. Donc on avait quand même démarré avec le lourd. Et vous voyez qu'on retrouve dans le bâtiment qui est ici toute la structure typique de Perret, avec le report de charge à l'extérieur et des grandes fenêtres. Et voilà une vue du centre en 60. Donc vous voyez qu'en 10 ans, la construction qui avait eu lieu, c'était vraiment tout à fait considérable. Il devait déjà y avoir 3 ou 4 000 personnes qui y travaillaient. Donc là, j'arrive un peu au bout de mon exposé. Donc je me suis vraiment intéressé au début du début. Hein. Alors derrière ça, ça a été le développement. Là, c'est une image assez récente. Il manque un certain nombre de centres, hein, parce qu'il y en a qui ont déjà été fermés. Hein, Moronvilliers, Limeil, etc. Mais vous voyez que beaucoup de centres ont été démarrés, puisque après 47 Fontenay-aux-Roses, 50 le démarrage de... Pardon, de... Où est-ce qu'il est, Saclay ? 50. Oh là, il y a une erreur. Ensuite, vous avez Grenoble avec l'UNEL en 56, Marcoule en 56, Cadarache en 59. Donc vous voyez, d'année en année, pratiquement tous les deux ans, on rejoutait un nouveau centre qui lui-même montait à 1500, 2000 personnes. Donc développement assez considérable. De la même manière, on voit apparaître à partir de 55 le début de la séparation entre la partie militaire et la partie civile, qui après ça, elles ont gardé pas mal de liens. Mais il y avait quand même une frontière bien établie entre les deux. Je dirais pratiquement le point de rencontre principal, c'était probablement l'enrichissement d'uranium, hein, où là, on était sur des technologies qui pouvaient être assez voisines. Mais donc, on voit apparaître tout ce développement de la partie militaire. Alors, ce qu'on note derrière ça, c'est que après toute cette période qui était assez dense, mais encore assez confidentielle, arrive 8 décembre 1953, où là, il se passe quelque chose de très important. Le président Eisenhower fait devant les Nations Unies un discours dans lequel il va promouvoir l'énergie nucléaire. Bien sûr, pas militaire, civile. Dans le même temps, il va lancer un programme américain de dissuasion. Donc vous voyez, en même temps, il encourageait l'utilisation civile, mais il gardait quand même le deuxième sabot dans son pied. C'était un lancement d'un programme majeur de dissuasion, sachant que dans le même temps, les Russes faisaient la même chose. Donc là, c'est le point de départ. Pardon. Oula, qu'est-ce que j'ai fait, là ? Oh, je ne sais pas revenir, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Donc, on se trouve avec avec le tome office, bon, ça va, j'y irai. Voilà, j'y suis. Alors, ce qui est très important quand même, vous savez, que le programme Atome Pampis, c'est que les Américains ont ouvert énormément de dossiers. Alors, dossiers civils, pas militaires. Là, je peux dire que là-dessus, ils n'ont rien lâché pendant fort longtemps. Donc, du côté civil, ils ont lâché énormément de dossiers. Et ce qui est très surprenant pour des gens comme moi, c'est qu'aujourd'hui, quand vous lisez la presse, vous avez toujours des gens qui vous disent « Oh mais, il y a des réacteurs merveilleux, pourquoi est-ce qu'on fait des réacteurs ?» comme ils sont aujourd'hui, réacteurs à eau pressurisée. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas du thorium? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des réacteurs rapides? Pourquoi on ne fait pas des réacteurs à sel fondu? Je peux vous dire qu'en 1953, 1954, 1955, tout ça était déjà inventé, et tout ça avait déjà eu au moins des parties de réalisation aux États-Unis. Ils ont eu un réacteur à sel fondu, par exemple. Hein. Ils ont fait des réacteurs graphite à haute température, avec le général atomique. Ils ont tout fait, et tout ça, dans les années 50. Alors qu'aujourd'hui, quand on lit la presse, on a l'impression que des tas de gens ont des idées absolument géniales sur le sujet. Non, ils avaient pratiquement tout vu. Donc, on en est là. Ce que je peux noter, moi, en ce qui me concerne, ce qui a été très remarquable dans toute cette affaire-là, ça a été la constance politique. Quand on regarde l'histoire, au départ, vous avez eu De Gaulle. Vous avez eu des savants, vous avez eu de très hauts fonctionnaires qui étaient des gens, ce que j'appellerais des grands commis de l'État. Ce n'étaient pas des gens qui étaient des serviteurs de l'État, c'était des grands commis de l'État. Ce n'était pas la même notion. Et dès 1952, le Parlement... Alors, il y a un gars qui a été très important, qui était Félix Gaillard. On ne parle pas souvent pour une politique, mais il a été ministre pendant pratiquement 4 gouvernements. Il était en charge de l'énergie atomique. Et lui a eu une grande constante dans ce soutien de l'énergie atomique, y compris côté militaire, d'ailleurs. Hein. Donc, Félix Gaillard. Et donc, dès 1952, il a fait un plan quinquennal où, du côté civil, il y avait 2 piles au graphite, une usine d'extraction du plutonium et un budget qui était de 40 milliards de francs de l'époque, ce qui était énorme. En 1954, Mendès France, qui a priori était plutôt pacifiste, bien renseigné sur ce qui se passait autour du monde, a compris ce qui se passait en Russie, a compris ce qui se passait, et lui-même décide... Alors, il n'a pas été ministre très longtemps, parce qu'avec l'affaire d'Indochine, il a malheureusement duré très peu de temps à ce moment-là, mais il décide de lancer un programme secret sur un engin et un sous-marin nucléaire. Ça a été parti de Mendès France, moi, ce que j'ai lu. Mais son gouvernement tombe, mais c'est repris un an après par Gaston Palevski, qui est bien connu aussi, hein, et qui a été chargé également, qui autorise la construction d'un sous-marin nucléaire. Alors je pense d'ailleurs que le premier devait être à uranium naturel. On a fait sa coque qui était gigantesque, qui était le Gymnote, hein, mais le premier réacteur... On ne savait pas faire d'uranium enrichi. On a su faire d'uranium enrichi en France que dans les années 60 puis 70. Donc, à l'époque, on ne savait pas faire. Et puis, en 56, la France sort du bois, puisque Guy Mollet va faire une déclaration à la tribune de l'Assemblée, dans laquelle il avoue officiellement que nous avons des activités militaires sur le sujet. Et puis, c'est donc en 58, Félix Gaillard qui va lancer un peu tout ce qui a conduit aux explosions dans le Sahara. Puis derrière ça, il y a un paquet de grands noms. Énorme continuité politique. Parce qu'il y a Guillaume, il y a Mesmer, il y a Georges Besse, il y a des tas de gens qui sont venus derrière ça. On peut dire que, bon, mon point de vue, c'est que cette espèce de grand consensus politique qui a mené à tout ce programme, il a commencé à s'effacer. Bon, Tchernobyl a eu une conséquence de manière évidente, très forte. Puis ça, à partir, disons, du gouvernement Jospin, là, les choses commençaient à se dégrader. Et je veux dire que, à ma grande tristesse, aujourd'hui, on ne sait pas du tout où on va. Personne ne sait où on va, personne n'ose dire. On vous dit que le nucléaire, c'est bien, ça ne fait pas de gaz carbonique, mais en même temps, le même vous dira tout de suite, « Ah, oh, mais les déchets, c'est embêtant. » Enfin bon. Donc, aujourd'hui, on est dans une espèce de flou qui fait que c'est un peu inquiétant. On a pu, pendant 30 ans, 40 ans, avoir un programme de recherche, mais aussi industriel, qui a été considérable. Et on peut dire qu'aujourd'hui, il y a énormément d'incertitudes qui tournent autour de ça, même si, en tous les cas, au niveau des armements, le programme semble bien maintenu. Mais il faut dire qu'on en parle très peu. Du côté civil, c'est beaucoup plus flou. Voilà ce que je pouvais vous dire du début du CEA.
Donc, merci, c'était très intéressant, c'était très complémentaire de ce que Christian a dit.
C'est pas trop recouvert, ça va ?
Voilà, voilà. Non, c'était très complémentaire. Donc, c'est le moment de poser des questions. Oui, oui, tu veux poser une question ? Tiens. Allez.
Non, juste un petit commentaire concernant vous parliez de la stabilité politique concernant le programme. Il y a eu un tournant quand même dans le CEA, hein, à partir du moment où
Joliot a été viré.
Et
51 51
51
50 51 oui.
Et pendant un an, il n'y a eu personne d'ailleurs à la tête du CEA. Dautry était vieillissant. Il n'y a eu personne, ça flottait dans le manche parce que
Dautry a cherché à reprendre le pouvoir.
Voilà. Et alors c'est Gaillard qui a repris la main et qui a nommé Francis Perrin au commissaire et Guillaumin. Administrateur général.
Homme remarquable.
Et Guillaume est resté 7 ans.
Ouais, homme remarquable. J'ai cité pour ça.
Oui, et il était très pro-bombe, lui. Donc il a mené ça. Il avait des relations extraordinaires. Il était en relation avec De Gaulle, parce que De Gaulle, bien qu'il soit retiré des affaires, dès qu'il y avait une menace, la CED, Euratom, etc., il intervenait et il faisait agir ses hommes de confiance. Mais
Guillaume était exceptionnel.
C'est ce qui explique un peu cette stabilité qu'il y a eu dans le programme.
On me demanderait de citer aujourd'hui qui est le Guillaume d'aujourd'hui. Je suis totalement incapable de le dire. Qui est le Guillaume d'aujourd'hui? Ou le Georges Bèze d'aujourd'hui?
Il y a un candidat dans la salle. Bien, pas d'autres commentaires ou questions? Si, oui.
Ce qui est remarquable à sa clé, c'est que tout l'aménagement du plateau dont on parle périodiquement, dont on reparle, repose toujours sur une décision d'un comité interministériel assez obscur, dont les arrière-petits-enfants sont maintenant au pouvoir. On reconnaît quelques noms de conseillers d'État, tout ça, qui dit qu'autour, on ne pourra pas construire dans un rayon d'un kilomètre.
Oui.
Et tout. On va travailler à l'aménagement du plateau de Sacré. Oui. C'est ça qui structure l'aménagement du plateau.
Oui.
Alors, fait que des exploitations agricoles subsistent.
Il y a eu. Alors d'abord, c'était un rayon de 500 mètres plutôt que d'un kilomètre, et autour des réacteurs. Donc c'était une zone assez limitée. La meilleure preuve, c'est que Saint-Aubin s'est construit quasiment aux frontières du centre. C'est vrai. Alors derrière ça, il y a aussi ce qui a beaucoup pesé, ça a été l'évolution de la sûreté nucléaire, avec l'invention des plans d'intervention, avec l'invention des périmètres d'exclusion, les périmètres de plans d'intervention. Alors tout ça va d'ailleurs disparaître assez vite, puisque en dehors d'un laboratoire chaud, il ne reste plus grand-chose de très radioactif à Saclay maintenant.
Oui, j'ai l'impression que tous les savants et chercheurs à l'origine de toutes ces découvertes étaient européens, que les Américains ont bien sûr exploité tout ça et par leurs énormes moyens ont développé bien sûr, mais est-ce qu'il y avait à l'origine des têtes chercheuses américaines ?
Je pense qu'elles sont venues très vite.
À l'origine ?
Non, mais il y en a eu. Il y a eu beaucoup. Faut voir que l'Amérique a, je dirais, explosé au niveau industriel et recherche, avec la guerre de 14-18. Faut pas négliger ça. En 39-45, les États-Unis étaient déjà un très grand pays industriel. Quand on voit qu'ils ont pu mener parallèlement ce programme Manhattan, plus, pendant les premières années, alimenter l'Angleterre en armement, et ensuite intervenir directement à partir du moment où ils ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Donc non, ils avaient une puissance considérable, et même si des gens comme Fermi ont eu des rôles essentiels, je peux vous dire que dans l'organigramme que je vous ai montré tout à l'heure, c'était à 99% américain.
Je vais vous citer des noms quand même. Compton, Urey, Lawrence.
Oui.
Donc il y avait beaucoup d'Américains.
Puis des gens comme l'amiral Rickover.
Voilà.
Comme Rickover,
c'est venu, c'est venu après. Disons, non, mais la question, c'était tout à fait au début, et qui, dans le premier comité qui a été à l'origine de Manhattan. Vous regardez ma conf, j'ai fait la liste de tous les gens de toutes les têtes qui ont participé. Je confirme que c'est.
Et je rajoute un point. Vous connaissez comme moi les Américains. Vous avez un organisme qui se monte, projet Manhattan. Immédiatement, ils ont toute une bande de chercheuses qui débarquent dans toutes les grandes universités et qui vont offrir des pandores aux plus brillants des étudiants. Ça a été immédiat. Ils ont raclé. Les seuls qui venaient pas, c'est ceux qui étaient pacifistes. Oui. Oui, 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 Oppenheimer, tout à fait.
Oui, Oppenheimer, oui.
Oui, bien sûr.
Il était déjà... l'ai pas cité, mais oui, bien sûr, fallait le citer. Oui, oui, bien sûr. C'est évident. Hein. Oui.
aussi le fait, la création un peu au sud du centre de Bruyères, le Châtel,
oui, oui,
aux applications militaires, et où c'est le père, donc le père de Michel Rocard, Yves Rocard,
oui,
a acheté personnellement avec des fonds secrets.
Ça, je savais pas.
Il est révélé à une émission.
De oui, ça, je savais pas.
Le petit-fils raconte ouais, ça devant Michel Rocard ouais, à la télévision. Enfin, mmh, là, je l'ai appris. Ouais.
Il choisissait les sites et avec la même. Il y avait un château.
Oui. Voilà,
c'était dans un coin bien isolé.
Bien isolé, oui, oui. Alors, à Saclay, il y avait un château, mais il était à Gif. Donc il y a effectivement le château de Gif qui a été acheté, qui a servi un peu de siège au début. Oui. Oui, c'était une ancienne poudrerie, oui.
Et je voulais savoir l'histoire qui se rattache à Valduc.
Bah, c'était une poudrerie avant.
Ouais, une abbaye,
Oh, peut-être avant, oui, oui. Avant. Bon, Moranvilliers, c'était un fort. Oui, oui. Bon. Bon, en revanche, Valduc a dû être construit in abstracto au milieu de nulle part. Oui, oui.
C'était étudié pour.
Ben, ils ont isolé ce qui était le plutonium et les poudres. Hein.
Deux habitants au kilomètre carré. Voilà.
Le plutonium en particulier. Hein.
Ouais.
Mais moi, je me souviens, la première fois que je suis allé à Valduc, j'avais fait des manips sur des espèces de petits réacteurs critiques avec mes collègues de la Dame quand j'étais à Grenoble. Et je me souviens m'être perdu autour de Valduc, il n'y avait pas un panneau qui disait où c'était. Hein.
C'était étudié pour aussi.
Ouais, ouais.
Même aujourd'hui, c'est très discret. Hein.
C'est discret encore, mais moins, hein, moins. Moins.
Bon, enfin oui, il y a un panneau. Mais...
Il n'y avait pas de panneau, mais d'excellent vin.
Ouais.
Oui. Pour le moment, les Américains, enfin moi, alors je ne peux pas dire que je suis au courant vraiment de ce qui se passe maintenant. Moi, ce que j'ai senti des Américains, les Américains sont extrêmement pragmatiques. En gros, c'est qu'est-ce que je fais pour que ça me coûte le moins cher possible. Alors, ils ont. Alors, ça, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, ils ont voulu, sur tout ce qui est retraitement et ensuite éventuellement transmutation, là, ils ont quand même beaucoup mis la pédale douce, un petit peu parce que ça coûtait cher, un peu parce qu'ils avaient quand même très peur de la prolifération, et ils n'ont jamais aimé que les Français fassent du retraitement. S'ils avaient pu arrêter ça, ils l'auraient arrêté. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur les déchets, alors là, ils se sont pris comme des manches avec Yucca Mountain, dans le sens qu'ils ont fait une présentation de Yucca Mountain dans laquelle... ce qu'on appellerait la durée de vie des déchets, était notoirement, pas sous-estimée, mais présentée comme extrêmement courte. Ce qui fait qu'ils se sont plantés au niveau juridique, complètement. Aujourd'hui, les Américains, alors c'est curieux de voir ce qu'ils font, parce qu'il y a des choses qu'ils savent bien faire. Par exemple, les éléments combustibles irradiés, bon, ils les laissent barboter en piscine le temps qu'il faut. Puis dès que la température est assez basse, ils prennent un gros conteneur en plomb, ils le foutent dedans et ils le posent sur la pelouse. Et ils ont des conteneurs qui sont alignés comme ça. L'énergie thermique est suffisamment basse pour que ça ne pose pas de problème. C'est refroidi par l'air ambiant. Donc ça, c'est ce qu'ils font. Démanteler des réacteurs. Tout le monde dit qu'on ne sait pas démanteler des réacteurs. Des réacteurs ont été, des réacteurs comme les nôtres, hein, des 1000 MW, ont été démantelés aux États-Unis. Jusqu'à avoir de l'herbe. Mais alors là, ils ne s'emmerdent pas. Là où en France, on a inventé un concept qui est celui, il n'y a pas de seuil de libération. Dès qu'un objet est rentré dans un machin qui est un peu nucléaire et un peu sale, c'est considéré comme un déchet. Ce qui veut dire qu'on ne peut presque rien sortir. Eux, ils ont des seuils de libération. En dessous de tant de becquerels par kilo, c'est plus radioactif. C'est moins radioactif que le granit, d'ailleurs. Hein. Mais c'est comme ça. Donc eux, ils n'ont pas cette gêne. Alors ils vident le réacteur, ils éliminent la cuve, puis à la fin, il y a un tas de béton. Ils font sauter l'explosif. Essayez d'imaginer ça en France. Non, non, il faut qu'à la petite cuillère, on allait ramasser les gravats pour vérifier comment ils sont. Donc, ils sont très pragmatiques. Et ce qui fait qu'ils annoncent des coûts de démantèlement qui sont faibles. Relativement faibles. Donc, ils ont une vision pragmatique. Il n'y a pas d'idéologie derrière la manière dont ils traitent les choses maintenant, en sachant que la seule idéologie dominante là-dessus sur le sujet aux États-Unis, c'est la sortie du nucléaire.
Ouais. Ils sont quand même très ennuyés sur un point, c'est tout ce qu'ils ont fait pendant la guerre, pendant le projet.
Oui.
Parce que
Je suis bien au courant, on a voulu. Framatome, quand j'étais à Framatome, on a racheté la partie nucléaire de Babcock.
Oui.
Et en particulier. On a racheté un site que Babcock avait utilisé et qu'avant Babcock, c'était une autre entreprise qui avait manipulé du plutonium et des tas de bazar pendant la guerre. Et tout ça avait été enterré dans des tranchées et personne ne savait ce qu'il y avait dedans. Et ça a failli faire capoter notre affaire parce que nous ne voulions pas, Framatome, prendre la responsabilité de ces déchets qui étaient horribles. Et finalement, c'est McDermott, la maison mère de Babcock, qui a donné sa garantie en disant bon, bah, s'il faut décommissionner le site, parce que la loi américaine dit que si vous avez un site et que vous ne faites plus de nucléaire sur le site, vous devez le décontaminer. Et là, personne ne sait combien ça va coûter.
Personne ne sait. Et je
prétends, c'est à Hanford, là, c'était encore pire. Il y avait des réservoirs entiers d'espèces de liquide, un mélange chimico-radioactif. Et c'est la COGEMA qui a pris le contrat. Je ne sais pas comment ils s'en sont tirés. Et c'est partout pareil. Ils ont des sites où ils ont fait n'importe quoi pendant la guerre, parce qu'il fallait aller très vite. Et maintenant, ils ont tout enterré. Et maintenant...
Alors, l'avantage qu'ils ont de leur site, c'est qu'ils sont en général dans des zones très désertiques.
Oui.
Ce qui est un avantage.
C'est vrai.
Ce qui est moins vrai chez nous.
Il y a quand même le site de Babcock, là dont je parlais. Il y avait un restaurant à côté. Ben, on a retrouvé du plutonium sur le parquet du restaurant.
Non, mais de même qu'ils ont eu beaucoup d'ennuis dans leur stockage souterrain, dans des fûts dans lesquels ils avaient mélangé des acétates, des chiffons et des produits, qui a fait un certain nombre d'incidents, qui font beaucoup de tort d'ailleurs, hein, parce qu'ils sont très médiatisés. Et ça, c'est un phénomène, c'est clair qu'en 1945, on connaissait les dangers liés à ça, mais... D'abord, il y avait une urgence. Quand vous voyez la vitesse à laquelle c'est allé, le responsable d'une installation de retraitement qui traitait ça, il se trouvait tout d'un coup avec des centaines, des milliers de mètres cubes d'acide nitrique qui avait servi à dissoudre des barreaux d'uranium. Je suis pas sûr qu'ils étaient équipés pour vraiment les gérer. Donc c'est très difficile. On a eu la même chose en Angleterre, à Dunray, dans des coins comme ça. Et en France, on a... Alors en France, quoi qu'on est, on est beaucoup moins. On a quand même quelques emmerdements à La Hague. Moi, je sais qu'à Cadarache, j'avais des tranchées qui n'étaient pas dangereuses, mais qui étaient hors normes. On a beaucoup de hors normes. Parce que les normes ont tellement évolué que c'est très difficile.
Bien, on va remercier Jean-Pierre Pervès de nous avoir consacré cette soirée. Donc, merci beaucoup. Et puis, de nouvelles aventures. Voilà, on va dire ça comme ça. Merci.